Rio 2016, les Jeux continuent. Voici Alexandre Coupal.
La plus cordiale des bienvenues à vous tous et à vous toutes à cette édition de Rio 2016. Les Jeux continuent. Ils ont beau continuer, le Canada reste fait du surplace au tableau des médailles. J'en dis pas plus, mais j'en ai déjà trop dit. Philippe Asselin aura bien sûr tous les résultats dans quelques minutes. Le temps pour moi de vous donner le menu de ces minutes justement qui vont nous accompagner jusqu'à la demi de l'heure. D'abord, une première entrevue avec un athlète qui fait partie de cette édition des Jeux paralympiques, Pierre Mainville, que vous connaissez bien, qui a chroniqué ici. Qui est bien sûr escrimeur en fauteuil roulant, dont l'histoire est tout à fait digne d'un film hollywoodien. S'il ne vous l'a pas raconté, si on ne vous l'a pas raconté, disons simplement qu'il y a une poursuite en voiture qui est impliquée et des coups de feu également. C'est dans un accident de cet ordre-là que Mainville a perdu l'usage de ses jambes. Il est bien sûr athlète en fauteuil roulant et en escrime depuis... les Jeux de Pékin, c'est donc ses troisièmes Jeux paralympiques et vraisemblablement ces derniers. On discutera de tout ça avec lui. Il sera là dans 5 minutes à peu près. Sinon, le tir à l'arc est à l'honneur aujourd'hui, alors qu'avec Gabriela Kosuvan, qui est directrice technique de la Fédération de tir à l'arc du Québec, on va approfondir davantage la discipline. Il y a deux athlètes canadiens qui sont inscrits dans les compétitions à Rio, qui étaient en action, entre autres aujourd'hui. On fera un petit résumé de tout ça avec Mme Kosuvan. Et sinon, fidèle à notre habitude, on termine avec notre saut sur place. J'essaie de trouver un animal brésilien reconnu pour ses sauts, mais malheureusement, ma culture animalière ne va pas jusque-là, loin de là. Même Vincent Lockman, notre homme qui, avec Émilie Labonté de Sportcom, sont nos deux espions sur place. Vincent Lockman de Vivre FM, donc le rédacteur en chef, sera avec nous en fin d'émission. Et avec Vincent, on a pris l'habitude de parler pas mal de la réalité brésilienne. Ce sera encore le cas aujourd'hui dans un registre pas facile. Par contre, vous verrez bien, donc, dans une grosse quinzaine de minutes, on s'entretiendra avec lui. Mais pour tout de suite, restez là, les derniers résultats des 24 dernières heures, oui, s'en viennent. Et ces résultats nous arrivent de la bouche de Philippe Asselin. Philippe, bonjour.
Bonjour, Alexandre.
Alors, un autre 24 heures et, comment dire, les jours se suivent et se ressemblent.
Oui, pas de médaille pour deux jours consécutifs pour le Canada. Bon, mais bon, quelques résultats quand même. On va commencer en tir à l'arc,
d'accord,
si tu le veux bien, puisque l'équipe mixte composée de Karen Van Ness et de Kevin Evans ont perdu malheureusement face à la Chine 155 à 143. C'était en quart de finale, ça, de cette compétition-là. Sinon, en gold ball, le Canada s'est aussi incliné par la marque contre la Chine, encore une fois, par la marque de 8 à 3. Ils ont donc passé une fiche de 1 victoire, 2 revers dans cette compétition. En natation, soulignons les performances hier de Nathan Steen et de Alec Elliott qui ont terminé 4e et 5e de la finale du 100 mètres papillon en S10. Chez les femmes, Samantha Ryan, elle, a terminé 5e dans la même, en papillon 100 mètres, elle aussi. Basketball en fauteuil roulant, le Canada a terminé donc sa ronde préliminaire avec une défaite pour porter la marque à 0-5, donc 5 défaites. Ils ont perdu contre la Turquie 67 à 46. Et sinon, aujourd'hui, on en parlait hier, Mathieu Hébert en escrime a malheureusement pas été capable de se qualifier pour la ronde après la ronde préliminaire.
Pour la ronde éliminatoire.
Dans ses 5 matchs, il a terminé avec 1 victoire et 4 revers dans son cas. Sinon, le Canada a perdu en basketball en fauteuil roulant chez les femmes, cette fois-ci 78 à 60 contre les Pays-Bas. On a perdu aussi en... Ouais, dure journée quand même pour le Canada. On a perdu aussi en boccia 7 à 2 face au Portugal. Mais la bonne nouvelle du jour, c'est Aurélie Rivard, qui est la vedette de ces Jeux paralympiques pour le Canada, qui a réussi tout un exploit lors des qualifications pour le 100 mètres libre. Donc, dans sa catégorie, les S10, rappelons-le, elle qui a réussi un record paralympique avec un temps de 59,89 secondes. Elle sera donc dans le meilleur corridor lors de la finale
j'espère.
Ce soir.
C'est le record de la recordman. Pas le record, mais le corridor de la recordman.
Et sinon, en terminant pour le Canada, on parlait hier de Stephanie Chan, qui est en tennis de table, qui disputait la médaille de bronze aujourd'hui. Malheureusement, elle a perdu en 4 manches. Donc, elle a remporté, elle, la première manche, 14-12, mais ensuite s'est inclinée 11-7, 11-7 et 11-8 lors des 3 manches suivantes. Donc, pour terminer, quatrième et toute petite histoire rapidement qui m'a passé sous les yeux hier, qui concerne un Algérien. C'est dimanche que c'est arrivé, l'athlète paralympique Abdelatif Baka, au 1500 mètres, catégorie T13, donc chez les malvoyants, il a réussi un temps de 3:49.29 dixièmes de seconde. Il s'agit bien entendu d'un record paralympique, mais il s'agit aussi d'un nouveau record du monde, tout catégorie confondue, parce qu'il a battu le record qui a été fait aux Olympiques cette année de 3:50. Donc c'est quand même très très impressionnant.
Absolument.
Lui qui devrait concourir probablement aux Olympiques malgré le fait qu'il a une déficience visuelle. Mm-hmm.
C'est le meilleur temps du 1500 mètres de ces Jeux de Rio, peu importe, depuis l'ouverture des Jeux olympiques. C'est effectivement, et moi aussi je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, c'est en train de faire un peu le tour du monde, et pour cause. On investiguera justement à savoir c'est quoi les nuances avec entre le 1500 mètres chez les paras versus aux Olympiques, et peut-être qu'effectivement il aurait pu prendre part aux Jeux il y a de ça quelques semaines. Enfin, son chrono, certainement, lui confère ce droit. Philippe Asselin, merci. On va se retrouver en fin d'émission. Vous le connaissez bien, il a chroniqué ici même à la station. C'est l'une des vedettes de cette délégation canadienne aux Paralympiques. Il s'agit de l'escrimeur en fauteuil roulant Pierre Mainville, que l'on va rejoindre à Rio. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Dites-moi d'abord, revenons sur cette journée d'hier qui, j'aime le rappeler, c'est vrai en escrime en fauteuil roulant, mais c'est vrai aussi dans un paquet de disciplines. Il y a de ces sports comme ça où ça se joue en une journée. Pour vous, c'était hier. Racontez-nous un peu cette journée.
C'est une journée qui est une journée comme les autres. C'est juste que quand j'ai commencé à tirer, j'étais stressé, bien sûr. D'une certaine façon, parce que je savais que c'était mes derniers Jeux paralympiques. Ma famille était là. Donc, j'ai commencé un petit peu sur une mauvaise note avec 3 défaites. Puis, j'ai réussi dans les poules. J'ai réussi aussi à faire une victoire 5-0, ce qui m'a permis de passer en quart de finale. Puis, quand que j'ai commencé les quarts de finale, j'ai quand même essayé d'être moins stressé, d'être plus relax, de penser à ma famille, de penser à des moments heureux. Mais la personne en avant de moi était vraiment très forte. Je me suis battu comme j'ai pu. Puis j'ai quand même fait plusieurs erreurs que je serais pas supposé faire. Puis mon chemin s'est arrêté ça l'a fini 15-7 environ.
Mais ce concept-là d'être dans une bonne journée, il me semble vous avoir entendu dire que justement votre adversaire grec, lui, semblait l'être. Et c'était votre cas, vous aussi, avant que ça commence?
Oui, moi je me sentais super bien. On est tellement préparé pour aller au jeu, que ce soit olympique ou paralympique. Là, on se prépare, je m'entraînais tous les jours. Autant la préparation physique que la préparation psychologique, ça fait que tous ceux qui vont là, tu sais, ils sont dans une forme qui ont jamais été. C'est un 4 ans intense. C'est la fin du 4 ans intense, donc on est à son meilleur. Mm-hmm. Puis tout se passe dans la tête rendu là.
Le fait que ce soit vos derniers jeux, jusqu'à quel point ça a eu un impact là, dans le déroulement des combats hier?
L'impact, c'est on essaye de comme je sais pas comment dire, mais de respirer l'ambiance, de voir tout ça, puis d'essayer de le vivre au maximum. C'est des choses que je veux me rappeler toute ma vie, donc c'est sûr que en même temps, ben je fais deux combats, tu sais, je suis en train de regarder un peu tout autour de moi tout en faisant un combat d'escrime. Donc c'est ça, c'est pas la meilleure méthode au monde. Mais c'est ça que j'ai vécu hier. Puis malgré tout, tu sais, je suis super heureux là, de tout le chemin que j'ai parcouru.
Et ça aussi, on l'a répété souvent depuis le début de cette émission, Pierre. Corrige-moi si je me trompe, c'est une huitième place au final. Donc, assurément, top 10 au monde. Ça reste très impressionnant. Maintenant, moi, j'étais curieux de savoir un peu comment les athlètes vivent ces Jeux en dehors de leur épreuve. Dans votre cas, là, vous êtes libéré, entre guillemets, de ça. Comment on vit ces Jeux comme athlète une fois que la business est réglée, si je peux parler ainsi?
Ben pour ma part, ma famille est ici avec nous, donc je vais passer beaucoup de temps avec ma famille. On va profiter des Jeux de Rio pour aller voir d'autres sports.
Ouais.
Donc, puis tu sais, goûter un peu la cuisine du pays. C'est un petit peu ça. On fait des tournées, là, voir les attraits qu'on n'a pas fait avant pour essayer de rester le plus concentré possible. Là, maintenant que je suis libéré, comme tu dis, ben je peux aller voir ces places-là, je peux goûter la bouffe pour pas être malade. Même si je suis malade, c'est plus grave. Donc c'est ça, là, passer du temps avec ma famille, puis profiter aussi des Jeux, d'aller voir les structures qui ont été bâties, puis profiter de tout ça.
Êtes-vous allé voir un peu d'escrime depuis?
Oui, je passe mon temps. Là. Comme aujourd'hui, je suis encore à l'escrime. Là. J'ai des amis ici.
Ben oui.
Moi, les escrimeurs, c'est ma famille. Hein. C'est des gens que je connais. Je les connais en personne, mais je les connais aussi par vidéo. Tu sais. Je connais tout sur eux parce qu'on fait beaucoup de vidéos. Donc, c'est un petit peu ma famille. C'est des gens que je connais par cœur. Donc, je passe du temps avec eux.
On l'a évoqué, vous l'avez dit également, ce sont vos derniers Jeux paralympiques. Qu'est-ce qui sera la suite à court, moyen et long terme? Est-ce que vous accrochez votre sabre littéralement ou il y aura encore des compétitions au programme?
Ben, il y a encore peut-être quelques petites compétitions. Je vais arrêter progressivement parce qu'il y a... Il y a deux escrimeurs que je veux continuer à suivre. Là, il y a Mathieu Hébert, qui lui, ça fait un petit bout qu'il est avec moi.
Ouais.
Comme Canadien, puis il y a Camille Chai qui a commencé à faire de l'escrime, puis qui est encore très jeune, ben très jeune, elle a 27 ans, mais elle est sur une bonne voie. Fait qu'elle, je vais essayer de lui montrer un petit peu là, comment ça se passe dans une Coupe du Monde, puis essayer de passer du temps avec elle, puis essayer qu'elle soit le plus concentrée, puis lui faire comprendre ces petites choses-là. Puis une fois que je vais sentir qu'elle est prête, ben là, elle va pouvoir voler par elle-même là, puis aller d'elle-même dans les compétitions.
Mais vous sonnez un peu comme quelqu'un qui pourrait avoir de l'intérêt pour le coaching?
Non, pas du tout.
Non? Oh, d'accord.
Non, j'ai pas la racine de coaching, mais peut-être plus suivre, tu sais, tenir dans la main pour se rendre à un tel point, puis après ça, laisser aller. Là.
Un peu de mentorat, mais sans plus.
Oui, c'est ça. Exactement.
Bon, ben écoutez, Pierre, merci. Un grand, grand merci d'avoir pris ces quelques minutes. C'est très apprécié. On va vous laisser aller découvrir les Jeux de Rio. Moi, ce que j'en sais, j'y suis jamais allé, mais ce que j'en sais, il y a une diaspora japonaise et une diaspora italienne aussi très forte. Deux communautés qui s'y connaissent en cuisine. Alors, j'hésiterai pas si je te vous.
Ouais, ben je vais profiter de ça.
un grand, grand merci encore, puis une bonne fin de périple à Rio.
Parfait, merci beaucoup.
Au revoir. Et d'un sport qui nous rappelle un peu les belles histoires de cap et d'épée, on va rester dans une thématique semblable alors qu'on va parler de tir à l'arc maintenant avec la directrice technique de la Fédération de tir à l'arc du Québec, Gabriela Cozuvan. Madame Cozuvan, bonjour d'abord.
Bonjour.
J'espère que j'ai pas fait un faux pas en faisant ces références-là. C'est vrai que ce sont des sports qui nous qui appellent à notre imaginaire un peu de ces épopées d'une autre époque. Est-ce que c'est quelque chose qui habite les gens qui pratiquent le tir à l'arc ou ça a aucun rapport?
Le tir à l'arc que nous pratiquons, pas vraiment. Il y a d'autres formes de tir à l'arc qui sont habitées par ces épopées.
Oui, oui.
Mais nous, on est un petit peu plus contemporains.
Oui, j'imagine. Et loin de moi l'idée de faire de mauvaises analogies.
Ah non, il n'y a pas de mauvaises analogies de toute manière.
Écoutez, parlons, entrons un peu dans le vif du détail. Il y a différentes épreuves de tir à l'arc dans ces présents Jeux paralympiques. Tout à l'heure, on faisait le tour des résultats des 24 dernières heures pour constater qu'on a des Canadiens qui disputaient une épreuve mixte aujourd'hui. Pouvez-vous nous donner un petit aperçu là, des différentes épreuves qui sont au menu?
Oui, ben aujourd'hui, c'est ça, c'est l'épreuve mixte. C'est l'épreuve mixte, c'est que les garçons et les filles tirent ensemble, ou les hommes et les femmes tirent ensemble. C'est deux athlètes en équipe mixte. Habituellement, c'est trois athlètes féminins ou trois athlètes masculins dans les épreuves dites normales. L'épreuve mixte, c'est un homme et une femme. Nous, du Canada, on a deux athlètes, c'est Karen Van Nest et Kevin Evans. Ouais. Karen qui vient de l'Ontario et Kevin de la Colombie-Britannique. Je fais une petite parenthèse, depuis des années, c'est la première fois que le Québec n'est pas représenté aux Jeux Paras. Ah. On est un peu déçus, mais c'est la vie. On a déjà eu un Québécois qui a gagné la médaille de bronze à Londres. Mais là, il n'est plus dans le ring des archers. D'accord. De compétition. Alors, on se tient à nos Canadiens.
Oui, oui.
C'est ça. Puis malheureusement, nos Canadiens ont fini 8e aujourd'hui. Ben, ils ont été sortis en fait en quart de finale par les Chinois. Ben, au moins, on n'est pas triste. Les Chinois sont champions paralympiques. Ouais. Ils ont gagné.
Est-ce qu'ils vont participer à d'autres épreuves?
Oui, ben là, il y a les épreuves individuelles qui vont continuer. Chez les femmes, si je ne m'abuse pas, c'est le 16 septembre que Karen va disputer ses épreuves. Et Kevin, c'est demain, le 14.
Kevin, qui est un ancien champion du monde, entre oui. autres, qui a longtemps dominé, dans le fond, le sport, là, il y a de ça quelques années.
Oh oui, ben c'est ça. Il y a 2007-2009, champion en titre au championnat du monde et a gagné plusieurs compétitions de niveau international. De mémoire, je pense qu'il est 26e au monde présentement dans sa catégorie.
D'accord.
Il a fini 22e en qualification. Il se prend contre, je pense, l'Italien... comment il s'appelle ça? C'est Gianpaolo, c'est ça? Gianpaolo Concelli, et qui est 11e.
Okay.
Il l'a déjà battu. On espère qu'il va réussir à avoir raison par les points et de faire l'Italien pour aller plus loin en 8e de finale. Et moi, je pense... Je connais assez bien Kevin, mm-hmm. puis je pense qu'il y a beaucoup de chances d'en aller dans les rondes des médailles.
C'est tout à fait possible.
Oui.
Je nous ramène, alors on va évidemment leur souhaiter bonne chance, je
oui.
nous ramène un peu à la maison. Vous disiez, bon, c'est dommage, il n'y a pas de Québécois qui sont au para cette année. Il y en a déjà eu, il y en aura certainement d'autres. Parlez-moi un petit peu de la réalité sur le terrain en ce moment. Vous qui êtes de la Fédération de tir à l'arc du Québec, est-ce que le sport se porte bien? Est-ce que, justement, la relève s'annonce belle?
Dans le tir traditionnel, dit sans handicap,
ouais.
Oui, on a une belle relève au niveau des jeunes. On vient juste de finir la saison avec le championnat du Québec à Sherbrooke, où on a une belle brochette des jeunes de 20 ans et moins, ce qui n'était pas nécessairement évident auparavant. La moyenne d'âge avant, c'était dans les 40 années. Là, on est rendu à une moyenne d'âge de 30. Qui fait que le tir à l'arc a connu un bel rajeunissement ouais. les dernières années.
Et pour le para?
Pour le para, on est en train de travailler présentement. On a un athlète para qui fait les Invictus Games. Là, je ne sais pas si vous êtes au
ouais.
courant. C'est ça, c'est les jeux pour les militaires, les soldats.
D'accord, oui.
Et c'est Nicolas Meunier qui s'initie présentement à la discipline et avec lequel je pense qu'on fera une belle équipe qu'on espère avoir pour 2020.
Très bientôt.
Oui.
Je lisais, on a malheureusement plus de temps, mais je lisais que c'est un sport aussi où les similitudes là, entre le tir à l'arc et le paratir à l'arc sont très, très grandes. J'imagine que qu'on s'entraîne ensemble, que les gens s'entraînent ensemble de manière générale. Enfin, il faut se laisser là-dessus, Mme Koussouvan. Un grand, grand merci d'avoir pris quelques minutes pour discuter avec nous. Gabriela Koussouvan, je rappelle que vous êtes directrice technique de la Fédération de tir à l'arc du Québec. Merci encore, puis une bonne fin de jeu.
Bien, c'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
Et on retourne immédiatement à Rio, retrouver notre collaborateur, le rédacteur en chef de Vivre FM, Vincent Lochmann. Salut Vincent.
Bonjour Montréal, comment ça va?
Ça va très bien. Alors, où es-tu? Est-ce qu'il fait beau?
Je suis dans la salle de presse, là, parce que j'étais à l'escrime ce matin. Et il fait très chaud ici à Rio, il fait très chaud, ensoleillé. Grosse chaleur. Dès qu'on sort des bâtiments climatisés, pouf, il y a un gros coup de chaleur qui vous tombe dessus.
Alors, ça explique pourquoi tu te terres dans la salle de presse. Entre autres choses.
J'ai beaucoup de choses à montrer, de ce qu'on a vu ce matin à l'escrime. Alors, j'allais à l'escrime pour deux choses. D'abord, pour voir un jeune Français, 23 ans, qui vient de notre Institut national des Invalides à Paris, et qui était en quart de finale, puis il a perdu, donc du coup, voilà, petite finale,
ouais.
Et il va finir quatrième, c'est bien dommage et décevant, mais bon, c'est comme ça. Et puis, je suis allé voir aussi ce matin un Brésilien qui est un champion d'escrime en fauteuil roulant depuis déjà plusieurs années, et il fait partie de ces 12 Brésiliens de l'équipe du Brésil qui sont en situation de handicap, ils sont 12, hein, à cause d'une question de violence par arme à feu. C'est quelque chose qui est très répandu, malheureusement, au Brésil, qui sont ces violences par arme à feu. Et donc celui que je suis allé voir ce matin, qui s'appelle Giovanni Guissone, il est originaire du nord du Brésil, d'une famille de cultivateurs. Et en 2004, il a essayé de s'interposer dans un vol et il y a eu un coup de feu qui est parti. Alors on appelle ça les balles perdues ici.
Ouais.
Et j'ai rencontré des gens qui m'ont dit mais c'est un peu une espèce de façon de pas voir le problème en face. Il y a un vrai problème de violence et lui, il est en fauteuil roulant à la suite de ce drame-là.
Et tu nous dis que sur les 12, dans l'équipe d'escrime en fauteuil roulant brésilienne, il y a 12 cas comme celui-là?
Non, dans l'ensemble de l'équipe brésilienne, ils sont très nombreux, hein, les Brésiliens, ils sont 200 quelque chose, là, je ne sais plus.
Pas seulement en 12, escrime.
Ils sont 12, pas seulement en escrime, ils sont 12 qui sont en situation de handicap à cause d'une agression avec des armes à feu. D'après les chiffres de l'UNESCO, 2012, 100 personnes meurent chaque jour au Brésil. Mm-hmm. Sous le coup des armes à feu. Et on a rencontré ici à Rio des gens, je peux dire, qui sont un peu en colère contre ça. Je pense à un responsable d'une association de personnes handicapées qui voit arriver des jeunes qui nous racontaient l'histoire d'une jeune fille, 16 ans. Elle était allée dans ce qu'on appelle ici les bailes funk. Un baile, c'est un bal, hein, en brésilien, et funk, parce que c'est une musique qui est faite dans les favelas à base de funk et de grosses machines. De gros sous-machines, là, des énormes systèmes de son.
Ouais.
Et cette jeune fille, elle est allée là-bas, elle s'est fait draguer par le caïd, un trafiquant local, et elle a dit non, elle lui a dit t'as vu commentaire, regarde-toi, t'es vieux, et paf, le gars lui a tiré dessus, et elle est aujourd'hui accompagnée par une association ici de personnes handicapées. Et donc, on en trouve aussi dans cette équipe du Brésil. C'est à la fois l'honneur de ces champions de se relever après un accident comme ça, mais en même temps, ça montre un peu toute la tragédie du c'est vraiment un problème majeur au Brésil aujourd'hui.
Est-ce que cette illustration-là, qui est très forte, on a bon espoir que ça serve la cause?
Que ça sert la cause, c'est-à-dire que...
Ben de la lutte à la criminalité ou enfin...
Oui,
de...
je pense que... Alors là, ça ferait... On peut espérer que ces champions qui témoignent, qui sont... Alors, quand il était ce matin dans la salle des crimes, évidemment, parce qu'il est brésilien, il est extrêmement soutenu par le public brésilien. C'était une folie, l'ambiance autour de ce Brésilien-là. Est-ce que ça va faire avancer les choses? Je ne sais pas, il faudrait regarder. Après, je n'ai pas suffisamment d'expertise sur la situation au Brésil, mais on peut essayer que ça puisse faire bouger les choses. L'autre cause de handicap acquis au cours de la vie, c'est les accidents de la route, qui sont ici très nombreux. Mais
n'empêche qu'un aussi grand nombre de gens qui sont victimes de ce type d'accident, c'est tout à fait troublant. Vincent Lockman, encore une fois, cette collaboration qui est très, très appréciée. Un grand merci, puis on se retrouve un peu plus tard dans notre série.
Avec plaisir. Allez. Merci. Au revoir à tout le monde à Montréal.
Au revoir. Et le temps qui file, Philippe Asselin, qu'est-ce qu'on surveille ce soir? J'ai une bonne idée. J'étais attentif au début de l'émission, mais je te laisse
de la natation, bien entendu. On va suivre Aurélie Rivard et de ses coéquipières qui seront dans plusieurs finales. Aurélie Rivard sera en finale du 100 mètres papillon. Sinon, il y a de la boccia aussi à 17h. Et il y a un match de gold ball qui va se jouer à 15h30. Contre l'Australie, même si je pense que ça vient de commencer. Sinon, duel en boccia, tout canadien, dans le mixte, dans la catégorie 4, dans le pool B, alors que Marco Dispatro affrontera Alison Levine, qui sont tous les deux des Canadiens.
Est-ce que tu veux y aller d'une prédiction, à savoir quel pays l'emportera?
Je pense que ce sera le Canada. Je vais mouiller avec ça aujourd'hui.
Un vrai médium.
Sinon, demain, on regarde... Il y aura de la natation, bien entendu, de l'athlétisme, et il y aura aussi... du basketball en fauteuil roulant, le Canada qui se battra pour la 11e position au classement des médailles. Le Canada est présentement 14e, toujours 3 médailles d'or, 7 médailles d'argent et 2 médailles de bronze.
Philippe Asselin, un grand merci. Espérons, enfin, on verra si ce classement aura changé, sera différent demain, alors qu'on va se retrouver. Bien évidemment, un grand merci à nos invités. Pierre Mainville, escrimeur en fauteuil roulant, Gabriela Kosovan, directrice technique de la Fédération de tir à l'arc du Québec, et notre collaborateur, le rédacteur en chef de Vivre FM que l'on vient tout juste d'entendre, Vincent Lockman. Petit merci spécial à Christiane Campagna qui s'occupe des réseaux sociaux ici. Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, merci infiniment. Une pensée et un clin d'œil au Comité paralympique canadien. Je m'appelle Alexandre Coupal, passez une excellente soirée et on se retrouve demain.